Bonjour professeur Lara Zafrani. Nous vous recevons aujourd'hui pour le nouvel épisode de l'émission Ligne de Mire. Vous travaillez dans le service de médecine intensive réanimation de l'hôpital Saint-Louis à Paris et vous allez nous parler aujourd'hui des CAR-T-cells. Pouvez-vous nous dire ce que sont les CAR-T-cells ?
Alors CAR-T signifie chimérique antigène récepteur. Ce sont des lymphocytes avec un récepteur antigénique chimérique. C'est une immunothérapie. Les lymphocytes du patient sont prélevés, ils sont modifiés in vitro, multipliés au laboratoire, puis réinjectés au patient. La modification, elle va consister à introduire, grâce à un vecteur viral de type lentivirus, un gène chimérique qui comporte les deux domaines variables d'immunoglobuline spécifique d'un antigène tumoral. Il va être le plus souvent le marqueur CD19 qui est exprimé sur les lymphocytes B, dans les leucémies aiguës lymphoblastiques B par exemple, ou contre l'antigène BCMA, B-cell maturation antigène, qui est exprimé dans le myélome. Et puis, il y a des domaines d'activation et de stimulation avec les séquences nécessaires pour assurer une insertion transmembranaire correcte de la protéine produite. Le lymphocyte T modifié va donc exprimer un récepteur antigénique chimérique comportant en surface deux domaines variables d'immunoglobuline et à l'intérieur de la cellule plusieurs domaines d'activation et de stimulation. Ces lymphocytes modifiés vont ensuite s'attaquer aux cellules tumorales et les éliminer. Alors, les premières grandes études publiées dans la leucémie aiguë lymphoblastique B ont montré des rémissions durables prolongées à 2 ans chez des patients qui étaient réfractaires à la chimiothérapie. Depuis, il y a les principales études publiées concernent les lymphomes B diffus à grandes cellules et puis plus récemment les myélomes. Une fois que le malade est considéré éligible pour les CAR-T-cells, on va débuter un traitement qui permet d'au moins limiter la progression tumorale jusqu'à la réinjection. Une leucapheresis pour prélever les lymphocytes et réaliser, il faut attendre en général 3 semaines, 1 mois avant la réinjection. Puis avant la réinjection des CAR-T-cells elles-mêmes, une lymphodéplétion est réalisée quelques jours avant la réinjection, en général par fludarabine et cyclophosphamide pendant 48 heures, puis la réinjection des CAR-T-cells peut se faire.
Quelles sont les complications des CAR-T-cells que l'on peut voir en réanimation ?
Alors, les principales complications que l'on voit en réanimation après l'injection de CAR-T-cells sont les complications infectieuses, le sepsis, le cytokine release syndrome, donc le syndrome de relargage cytokinique, le CRS. Et la distinction entre les deux est d'ailleurs parfois très difficile. On peut aussi avoir des syndromes d'activation macrophagique. Et puis enfin, on a des encéphalopathies liées aux CAR-T-cells, c'est ce qu'on appelle les CRES, les CAR-T-cell Related Encephalopathy Syndrome, qui est lié à la toxicité neurologique des CAR-T-cells. Donc le CRS, lui, est lié à la libération de cytokines secondaires à la prolifération et l'activation des CAR-T-cells. Et ces cytokines sont sécrétées par les lymphocytes T, mais aussi surtout par les autres cellules, les macrophages, les cellules dendritiques et les cellules endothéliales. Les principales cytokines que l'on retrouve en quantité importante au cours du CRS sont l'IL-6, l'IL-1, l'IL-10, le MCP-1, l'interféron gamma ou le TNF-alpha. Les signes cliniques, qui sont avant tout des signes qui miment un sepsis avec de la fièvre, une défaillance hémodynamique au premier plan et puis parfois des vrais syndromes de défaillance multiviscérale. Le CRS y survient à peu près entre J1 et J21 après l'injection des CAR-T-cells. Il est d'autant plus sévère qu'il survient précocement. Il y a des grades de CRS qui permettent d'orienter le traitement, mais ce qui complique un peu les choses dans la prise en charge, c'est que la définition même des grades de CRS, elle peut varier d'une étude à l'autre. Il y a un consensus qui a été établi en 2018 et publié dans Biology and Bone Marrow Transplantation, sur lequel on peut s'appuyer en dehors des protocoles. En pratique, on parle de CRS grade 1 en cas de fièvre isolée, de CRS grade 2 en cas d'hypotension artérielle qui va nécessiter un remplissage ou d'hypoxie qui nécessite la mise en place d'une oxygénothérapie standard à moins de 4 litres. Et on va parler de CRS grade 3 en cas de nécessité de mettre des vasopresseurs ou une oxygénothérapie à plus de 4 litres ou de l'optiflow. Et grade 4 en cas de ventilation mécanique invasive ou non invasive et s'il y a nécessité de mettre en route plusieurs vasopresseurs. Les macrophages étant activés par les CAR-T-cells, on peut aussi avoir d'authentiques syndromes d'activation macrophagique avec en plus de la fièvre et des défaillances d'organes, des troubles de la coagulation, une élévation de la ferritine, des triglycérides et des images d'hémophagocytose si on les recherche. Alors les patients qui ont une injection de CAR-T-cells sont des patients très immunodéprimés par la thérapie elle-même, par la chimiothérapie de lymphodéplétion et puis tous les traitements antérieurs qu'ils ont reçus en général dans l'histoire de leur maladie. Donc il faut aussi beaucoup de complications infectieuses et de sepsis et c'est parfois très difficile sur la clinique de faire la différence avec un CRS. Donc il faut vraiment traquer le foyer infectieux avant de traiter le CRS. Donc la troisième complication, c'est le CRES, l'encéphalopathie induite par les CAR-T-cells, qui correspond globalement à tout symptôme neurologique après injection des CAR-T. Le délai médian de survenue, il est de l'ordre de 4 jours, mais ça peut parfois survenir de manière plus retardée, parfois jusqu'à 1 mois. Il y a probablement aussi au niveau du cerveau une production active de cytokines ainsi qu'un passage passif à travers la barrière hémato-encéphalique. Il y a une dysfonction endothéliale et une rupture de cette barrière hémato-encéphalique. Les signes cliniques sont très variables avec des troubles de conscience, des convulsions, des troubles moteurs, des dyskinésies et des aphasies. On utilise aussi une échelle qui est l'échelle CARTOX qui est réalisée quotidiennement au lit du patient quand on a un patient qui vient en réa et qui a été injecté en CAR-T-cell qui permet d'évaluer les capacités d'orientation, l'écriture, la capacité de nommer des objets et l'attention.
Quelle est la prise en charge de ces complications ?
Alors tout d'abord, étant donné la difficulté à distinguer un CRS d'un sepsis, le foyer infectieux doit être traqué. Il faut prélever, voire enlever une éventuelle voie centrale au moindre doute chez des patients qui ont des PICC line, des portacates ou des catémanchons. Débuter des antibiotiques chez ces patients qui sont le plus souvent en aplasie fébrile au moment du CRS. Et puis on n'hésite pas à faire un scanner thoraco-abdominopelvien à la recherche d'un foyer profond au moindre doute avant d'ajouter des immunosuppresseurs. Ce sont des malades qu'on prend précocement en réanimation lorsque c'est possible, dès l'apparition d'un CRS grade 2, donc d'une hypotension artérielle nécessitant un remplissage vasculaire. En dehors du traitement symptomatique, devant un CRS grade 2, un traitement par tocilizumab qui est un anti-récepteur de l'IL-6 peut être administré. La dose standard, c'est 8 mg kilo et la dose peut être répétée 8 heures plus tard en l'absence d'amélioration. Si malgré cela, le patient s'aggrave, il faut discuter le ciltuximab, qui est un anti-IL-6, et une corticothérapie par dexaméthasone ou méthylprednisolone. En cas de toxicité neurologique, on fait en première intention un EEG systématiquement, une IRM cérébrale, une ponction lombaire afin d'éliminer un diagnostic différentiel chez ces patients très immunodéprimés. Si on a un CRES, donc une encéphalopathie liée au CAR-T-cell sans CRS, on privilégie la corticothérapie d'emblée au traitement par tocilizumab. Que ce soit pour un CRS ou un CRES, en l'absence de réponse à ces traitements, il y a d'autres traitements de troisième ligne comme l'anakinra qui peuvent être discutés, mais dans tous les cas, c'est une discussion multidisciplinaire avec les hématologues référents du patient.
Merci professeur Zafrani pour votre participation à l'émission Ligne de mire et pour ce podcast qui était consacré au CAR-T-cell.